Cher lecteur, bonsoir. Bonsoir Thomas Gunzi.
Bonsoir.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, on est heureux de se retrouver pour la première des mots d'Anouk. Et évidemment, pour la première, nous avons choisi de présenter un auteur belge. Un auteur belge qui nous vient avec son roman tout simplement passionnant et qui s'intitule « Rocky, dernier rivage », publié aux éditions Au Diable Vauvert. Alors, quelques petits mots sur qui vous êtes, même si beaucoup d'entre nous vous connaissent déjà. Vous êtes un écrivain belge, un homme qui touche surtout à tout. Vous avez été récompensé pour plusieurs livres. Je cite le prix Victor Rossel 2001 pour votre premier roman « Mort d'un parfait bilingue », le prix des éditeurs en 2003 pour votre recueil de nouvelles « Le plus petit zoo du monde » ou encore le prix de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique pour « Royaume et Take Five », le prix triennal du roman pour manuel de survie à l'usage des incapables et le prix Filigrane pour la vie sauvage. Je crois que je les ai tous cités. Vous avez également co-signé avec Jaco van der Mal le scénario du film Le tout nouveau testament, qui a réuni plus de 2 millions de spectateurs dont on se souvient tous et qui a été récompensé en 2016 par le Magritte du meilleur scénario. Mais aujourd'hui, on vous retrouve pour un nouveau livre qui nous a vraiment enchantés à David et moi. Alors, on va peut-être faire un petit pitch avant de commencer avec les questions. Alors, voilà, d'emblée, le lecteur est plongé dans ce livre. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Et le livre se divise en plusieurs chapitres, puisque chaque chapitre reprend la pensée des quatre personnages qui animent le livre. Il s'agit d'une petite famille qui a réussi, grâce au père milliardaire et grâce à sa fortune, à survivre à cette fin du monde. Et grâce à sa réussite professionnelle, le père est parvenu à sauver sa famille en achetant une île oubliée, permettant ainsi de les sauver. Il a tout prévu en ce qui concerne leur survie pour les 30 prochaines années. Il y a également la mère Hélène qui s'ennuie fermement parce que coupée du monde, elle ne parvient pas à s'en sortir. Elle s'abrutit à coups d'anxiolytiques. Et puis surtout, il y a les deux enfants. Les deux enfants qui sont également démunis pour aborder l'âge adulte puisqu'ils traversent l'adolescence et sont en crise totale. Alors le décor est très vite planté, il s'agit donc, comme je le disais, d'une fin du monde apocalyptique, d'une noirceur assez considérable puisqu'il est tout simplement impossible d'y échapper. Aucune civilisation ne semble avoir le pouvoir de résister à l'épreuve du temps, sauf cette famille. La force de l'auteur est de plonger, et c'est ça qui nous a plu surtout, le lecteur à travers les méandres les plus profondes de vos personnages. Et c'est là où le livre commence à devenir drôle, commence à devenir cruel et intéressant, même tragique, puisque très très vite c'est la bassesse des personnages confrontés à une situation extrême qui va être mise en avant. Et c'est un pur délice parce que finalement le livre fonctionne comme un miroir, puisqu'il ne cesse de questionner de façon indirecte le lecteur sur sa propre condition humaine. Et oui, comment ferions-nous? Comment nous comporterions-nous dans une telle situation extrême? Alors, je termine avant les questions. Vous avez fait plus que construire une fiction, puisque vous êtes très très bien documenté avec précision. Le lexique est par moments vertigineux, surtout lorsqu'il s'agit de séries télévisées, d'informatique ou encore de manuels de survie. Vous connaissez le caractère et les défauts de vos personnages sur le bout des doigts, vous ne les épargnez pas. C'est sanglant, c'est cruel, c'est parfois hilar, souvent, mais ça a tellement de sens. Et puis surtout, votre écriture est fluide, c'est facile à lire, vous avez le sens du détail sans pour autant devenir pesant. Bref, c'est un livre dans l'air du temps qui ne peut que nous parler puisqu'il nous rappelle à chaque page notre propre fragilité. Eh ben, on est en route pour les questions.
Oui, oui, on y va. Alors, le lecteur, Anouk l'a dit, il est confronté à quatre personnages, c'est un même noyau familial. Et mis à part ceux qu'on va, sans spoiler, éliminer, on a réellement affaire à un huis clos. Moi, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'on peut déduire principalement à travers leurs différents comportements. Donc, c'est un noyau commun, mais il y a des différences. Quels sont ces comportements et qu'est-ce qu'on pourrait en déduire? Voilà, on a une demi-heure.
C'est une question super compliquée.
Oui.
je ne sais pas du tout. En fait, c'est... le travail d'écriture est un travail qui est assez simple. C'est un travail qui est long, c'est un travail qui est compliqué, c'est un travail qui est technique, on se pose beaucoup de questions, etc. Mais à vrai dire, ça repose sur quelque chose qui a peut-être un lien avec la voyance. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec l'intuition, on travaille beaucoup à l'instinct, on travaille beaucoup avec... en essayant de créer des personnages, effectivement, qui sont au départ un petit peu grossiers. On a un petit tas de terre glaise, comme ça, et puis on essaye de sentir, de rentrer en empathie avec eux, et puis à mesure du temps, on rentre en écho avec leurs propres pensées, et on devient un peu eux. En tout cas, on essaye que les personnages, ça ne soit pas forcément nous, mais ça soit quelqu'un d'autre que nous. Ça peut être des gens formidables, ou des gens épouvantables, ou les deux à la fois. Est-ce qu'on peut en déduire ? C'est, j'en sais rien, je pense que ces personnages, aussi singuliers qu'ils sont, aussi étrange la situation dans laquelle ils se trouvent, ben voilà. En fait, ils nous ressemblent beaucoup.
Ah oui,
je pense qu'on on a tous été cette petite Jeanne qui s'ennuie, qui refuse ce que les adultes lui disent du monde. On ne les croit pas, les adultes, quand on est une petite Jeanne de 15 ou 16 ans. On a tous été un Alexandre qui est transi d'amour pour une fille qu'il n'a embrassé qu'une fois et qu'il ne reverra jamais. C'est des émotions qu'on connaît. Et puis, on a tous été aussi Fred qui veut... par-dessus tout et contre toute logique, protéger sa famille parce qu'il croit franchement que c'est sa mission. Et puis on a tous été aussi cette Jeanne qui a sa vie pieds et poings liés avec son mari, mais qui quelquefois, son imaginaire s'en va vers un ex qui n'est pas forcément recommandable. Et voilà, on a tous été ces personnages-là. Le travail de l'écriture, c'est retrouver ces émotions qui ont été les nôtres, qui nous ont traversées, et puis les attribuer à d'autres personnages et puis les faire grandir ailleurs. Etc. Ce qu'on peut en conclure, c'est que on est tous des êtres humains dans nos épouvantables comportements, dans nos héroïsmes, dans nos faiblesses, dans nos grandeurs. Voilà.
Exactement. Alors moi, nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est que on a réalisé que l'île est un personnage à part entière. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette île, dans laquelle évidemment se trouve cette famille, pardon.
Je pense que vous parlez de l'île, pourquoi pas, mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez du principe du décor. C'est quelque chose qui ne cesse de me fasciner, c'est la manière dont la réalité d'une histoire peut apparaître à partir de rien du tout, c'est-à-dire juste quelques mots sur du papier. C'est un peu l'effet magique de la littérature, c'est de quelle manière, lorsque vous lisez un livre... pour peu que l'auteur ait bien fait son travail, soudain vous avez une réalité qui s'impose à vous, qui se surimpose à vous. Vous oubliez le bus dans lequel vous êtes, le tram, voilà. Et puis vous êtes dans un lieu dans lequel vous ne trouvez pas, juste par la force des mots. Alors ici, effectivement, cette île, moi j'ai jamais vraiment vécu sur une île. Je crois que j'ai dû aller sur une île quelquefois en vacances, mais pas une île comme ça. De nouveau, c'est un entraînement de l'imaginaire, arriver à se figurer cette île, arriver à essayer de parvenir à se sentir sur cette île, et puis la faire exister dans l'imaginaire du lecteur. Voilà. C'est en fait le gros travail d'écriture, c'est pas forcément trouver un scénario, mais c'est trouver une langue, un style. Vous avez dit fluide, pourquoi pas, mais tout ça, en tout cas, c'est quelque chose qui doit à la fois se voir et pas se voir, qui doit exister et ne pas exister. C'est ce qui va constituer le système nerveux de votre histoire. Et le système nerveux, vous savez, c'est ce qui est lié au mystère de la conscience. Et le mystère de la conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais toujours est-il que, effectivement, l'intérêt pour moi, c'était de faire exister ce décor, que lorsque le lecteur lit ce livre, il est sur cette île battue par les vents, mais néanmoins confortable, au-dessus de laquelle il y a des oiseaux, quelquefois des phoques, le bruit de l'eau, le bruit de la mer, l'odeur des embruns, le sel, etc., etc. C'est de faire exister cette île, et la faire exister d'une manière particulière, parce que c'est une île qui n'existe pas comme si on était des voyageurs qui étions là depuis 2 jours, on est là depuis 5 ans.
Ouais.
Donc c'est une île qu'on a parfaitement intégrée, voire qu'on commence même à détester.
Tout à
on
n'en
peut plus de
et
cette île.
Et parfois angoissant.
Voilà.
Même.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais le darwinisme... voilà, j'attaque. Le darwinisme est omniprésent dans le roman. Entre autres, on peut prendre un exemple, les choses qui se passent avec le caractère d'Hélène, et les conséquences qu'on ne va pas spoiler. Et on se posait la question, est-ce que c'est... vraiment comme ça que vous voyez la société, voilà, comme une véritable jungle qui aboutit à, comme Darwin l'a dit, à l'élimination des moins aptes et à la survie des plus aptes.
Bah, ça ne devrait pas se passer comme ça, a priori.
Mais
alors, ce qui était intéressant, effectivement, c'est de se demander ce qui reste une fois qu'on enlève la culture.
Ouais, c'est voilà.
Qu'est-ce qui reste de la condition humaine, des comportements humains, une fois que, bah, d'abord, la culture a disparu, que le groupe social a disparu, que les normes sociales, hein, les interdits, etc., ont disparu. Qu'est-ce qui reste de nous? Ce qui reste de nous n'est pas forcément quelque chose d'épouvantable, mais on risque de passer par des épisodes épouvantables néanmoins. Et effectivement, ces personnages vont passer par des épisodes d'une certaine brutalité. Bah, y a effectivement tout ce qui leur passe par la tête, hein, qui relève de la déprime, de la dépression, du désespoir, quelquefois bon, de la violence. Mais je pense qu'il y a aussi dans l'histoire et dans la dynamique des personnages le fait qu'ils ont assez de ressorts pour retrouver en eux-mêmes quelque chose qui est de l'ordre d'une toute petite civilisation. En tout cas, ils réinventent quelque chose de minimal, en tout cas j'espère vers la fin, qui va leur permettre de coexister. Effectivement, les règles du jeu de la société telles qu'elles existaient avant ne fonctionnent plus. Tant qu'on va essayer de vouloir les appliquer, ça ne fonctionnera pas, ou très très mal. Donc il va falloir réinventer quelque chose. Entre les deux, c'est un peu compliqué. Mmh. Hein, voilà. Mais effectivement, je pense qu'un des personnages le dit dans le roman, c'est que le... Non, je ne sais plus ce qu'il disait.
Il y a des scènes
voilà, je ne sais plus me citer moi.
Il y a de ça. Waouh.
Mais voilà, c'est quel genre de colle agit la société permet de, comment ça nous permet de vivre ensemble. Et puis, une fois que cette colle a disparu, comment se recoller ensemble. Voilà.
Alors, est-ce que le fait de vivre dans l'opulence, puisque cette famille, ce père a gagné énormément d'argent, et d'avoir accès à tout, n'est-il pas véritablement un frein à la survie telle qu'elle?
Alors, oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que les récits de survie traditionnels, généralement, posent la problématique de la survie d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que les personnages auxquels on va avoir affaire seront dans un état de manque, ils n'auront pas assez à manger, pas assez à boire, ils seront dans des situations où l'environnement sera extrêmement hostile, etc. Ici, j'avais envie que la question matérielle de la survie soit remplie, mais que ce soit vraiment les conditions sociales, psychologiques, culturelles qui ne soient pas remplies. Donc, l'argent lui a permis d'installer son lieu de survie de la meilleure manière possible. La maison est magnifique, confortable, ils ont assez à manger. Tout ça n'est plus un problème. Malgré tout, ce n'est pas une condition suffisante à la survie. Voilà, la condition suffisante à la survie, c'est, je pense, avoir profondément compris qui nous sommes, comment nous fonctionnons, qu'est-ce qui établit la nature de notre rapport à l'autre, comment pouvoir vivre avec les autres sans un rapport de suggestion lié à l'argent, lié à la force, etc. Comment considérer l'autre comme notre égal si, effectivement, il n'y a plus ni un code juridique, ni la police, ni l'argent pour nous aider à vivre ensemble.
Alors, votre roman, il joue constamment avec l'idée de, j'ouvre les guillemets, posséder pour exister. On vient d'en parler. Et puis, il a déconstruit habilement. On construit ça, on déconstruit tout le temps. Alors, est-ce que c'est un jeu qui est né au fil de l'écriture ou bien est-ce que c'est une stratégie dramaturgique qui est préconçue? Est-ce que vous vouliez swinguer avec ça?
Non, il y a très très peu de choses de préconçu. Je pense que la plupart des romans que j'écris, c'est généralement très peu préconçu.
Ouais.
C'est toujours assez compliqué de faire l'archéologie de l'idée. Hein. Comment est-ce qu'on est tombé sur une idée? C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose, enfin, il y a quelque chose à laquelle moi je suis sensible, qui me pose question, qui m'intéresse, qui me fascine, qui est les grandes différences matérielles qui peuvent exister dans le monde. Hein. Je me demande toujours comment il est possible que des gens aient tellement, tellement, et des autres gens tellement, tellement peu, et que ça se passe, en fait, qu'on a l'air d'accepter ça relativement bien, alors que c'est une violence absolue. Donc ça, c'était effectivement une question. Et après ça, comment les choses se passent dans l'écriture, c'est inexplicable, en fait. Si, en fait, je pense que je suis toujours un chemin qui est en priorité d'éviter l'ennui chez le lecteur. Hein, le diable, c'est l'ennui, mm-hmm. disait Peter Brook. Et c'est vrai, hein, pour peu que vous ayez la prétention de lui faire payer 20 euros, qui vous consacre quelques heures de lecture, ben, il faut essayer de ne pas l'ennuyer. Et après ça, les choses se développent. Alors pourquoi elles se développent comme ça et pas autrement ? Il ne faut pas forcément ouais. chercher à savoir.
Non, non. Ouais.
Voilà, c'est les ressorts profonds de votre inconscient qui essaye de. Voilà, qui fait son petit artisanat d'écrivain, et puis voilà, c'est tout.
Quand vous avez construit le roman, qu'est-ce qui est venu en premier ? L'île, la catastrophe, la famille, le monde ? On vous demande un peu vos secrets.
Non, il n'y a pas des masses de secrets. Je pense que j'avais lu un article sur ces milliardaires de la Silicon Valley mm-hmm. qui, effectivement, se préparent. Certains très très ouais. bien à l'effondrement global et qui font ce que j'explique dans le livre au début, c'est-à-dire qui ont affaire avec des sociétés qui prévoient des abris, mmh. même avec des applications sur mmh. iPhone, hein, comme ce que j'ai écrit là. Et je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, je n'avais pas envie de décrire un énième effondrement au moment où il se produit. Je n'avais pas envie d'être, de faire un roman où des personnages essayent de survivre malgré... Voilà, je n'avais pas envie de faire 2012, quoi.
Tout à fait.
Par contre, je me suis demandé très rapidement, OK, imaginons que ces milliardaires se soient effectivement sauvés. Qu'est-ce qui se passe 5 ou 10 ans ouais. plus tard ? Qu'est-ce qu'on fait avec le quotidien ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ennui ? Que deviennent les relations humaines ? Que deviennent les enfants qui grandissent une fois que ben, voilà, la puberté est là, donc les centres d'intérêt changent, ils sont gagnés par le désir, par l'envie d'être amoureux, par l'envie de faire l'amour, etc. Ils ne feront jamais parce que ce sont les derniers humains. Que devient un couple lorsque c'est le dernier couple, etc. Ça, c'est des questions qui m'intéressaient. Mm-hmm. Je ne savais pas du tout où ça allait me mener, mais il fallait à partir de ça construire une histoire. Voilà, et puis, là commence le vrai travail d'écriture.
Fait.
Et ça prend 2 ans.
Oui, mais il y a quand même... c'est marrant, je fais une aparté. C'est pas préconçu, mais il y a quand même des ingrédients.
Exactement.
On a envie de parler. Il y a quand même des ingrédients.
Il y a les questions existentielles qui sont là ouais. et qui font qu'après, je suppose, l'histoire se développe à partir des questions.
Mais c'est-à-dire que les questions, on est tous pétris de questions. J'en ai plein. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre que les romans, c'est des magnifiques machines à poser des questions et il faut éviter que ce soit des machines à répondre à des questions.
Ouais, ouais.
Voilà, sinon ça devient des essais, ça devient des livres de développement personnel, ça devient des choses comme ça.
C'est un autre étage en
Voilà,
fait.
Personnellement, moi j'aime pas les romans où je sens que l'auteur pose un problème et me répond à ce problème et m'explique en fait comment il faut faire. Les romans en mode d'emploi, c'est quelque chose qui est très énervant. Voilà. Mais par contre, j'aime bien ces romans où les personnages ne sont ni blancs ni noirs, sont un peu dans les limbes du questionnement, de la problématique. Parce que ça me permet, moi, en tant que lecteur, de me confronter à ces questions et de ne pas forcément y répondre. Mm-hmm. Voilà.
Ouais, oui, et on se sent, après on va continuer, mais on se sent un peu moins seul parce qu'on se dit, tiens, les questions que je me pose se posent.
Exactement. Voilà.
Et je paye 20 euros pour ça. Mais c'est bien, je ne suis pas tout seul.
Mais mettre en scène les questions en train de se poser.
Voilà.
Mais les auteurs que j'aime bien, je ne sais pas, de Murakami à Dostoïevski, ce sont des gens qui posent des questions tout le temps.
Fait.
Mais Dostoïevski ne répond à rien, jamais.
Non.
Voilà, vous lisez, voilà, je ne sais pas moi,
et
l'idiot.
C'est ça la force, justement.
Voilà, et c'est vertigineux. Voilà. Et dès le moment les romans posent des questions, j'ai l'impression que le niveau d'intensité émotionnelle est beaucoup plus bas et que c'est en fait beaucoup moins intéressant.
Alors, parler de votre écriture, un énorme, je trouve personnellement un énorme pas en avant dans l'écriture parce que le sujet est quand même relativement hard et l'écriture, donc voilà, le sujet, on en a parlé. Et l'écriture, enfin, il y a à nouveau énormément d'humour, mais qui colle à ce sujet difficile, il y a un swing comme ça. Et les métaphores, elles sont omniprésentes dans le roman. Alors, je peux en citer une. La vérité, c'est comme un sparadrap qu'on arrache. Il vaut mieux faire ça d'un seul coup. Ça fait moins mal. J'adore ça. Alors, la métaphore, l'humour, serait-il pour vous votre façon personnelle de survivre à la cruauté du monde ? Est-ce que la manière dont vous écrivez vous permet de vous sauver par rapport à ce que vous écrivez ?
Non, moi je ne me sauve pas du tout. Moi je suis en train de crever dans le malheur du monde. Non, la littérature ne sauve absolument personne, n'a jamais sauvé personne et ne sauvera jamais personne.
Jamais.
Peut-être que ça aide un tout petit peu momentanément le temps.
À passer le temps.
Ça se paradra.
En tout cas, pour l'auteur ou l'autrice, ça n'aide pas. Ça, c'est avéré. Au contraire, je pense que c'est même c'est quelque chose qui vous conduit au désir de mort et de suicide, clairement. Peut-être que ça peut un peu aider le lecteur, mais ce n'est pas l'intention principale. Je ne sais absolument pas pourquoi je fais ce métier-là. Si j'avais su plus tôt, je pense que je ne l'aurais pas fait. Par contre, en tant que lecteur, j'aime bien lire. Ça, c'est quelque chose.
Ouais.
Voilà, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui me scotche à mes émotions, c'est quelque chose qui me grandit. C'est quelque chose, effectivement, qui peut un peu m'aider à ne pas mourir trop, trop vite. Par contre, l'exercice de l'écriture, de la création en général, je déconseille ça à tout le monde.
Voilà. En tout cas, c'est très impressionnant d'avoir un sujet qui est pas facile, mais qui est traité. Voilà, le fond, il est pas léger. Mais le traitement est très il est très léger. Et mais, c'est un souci pour vous de parler à tout le monde, quoi. Et ça, j'aime beaucoup.
Oui, j'aime bien me dire qu'un livre sera accessible à tous.
Ouais, ouais.
Je n'aime pas le principe de l'élitisme en littérature, de faire des choses. Je pense que c'est très difficile, d'ailleurs, d'être lisible par tout le monde, de mettre des niveaux de lecture. Il ne faut pas oublier que la littérature aussi se confronte aujourd'hui à une concurrence énorme qui est la concurrence des écrans. Hein. Mm-hmm. Quand on prend le tram, combien de gens sont en train, et moi aussi, hein, je suis le premier, sur leur téléphone au lieu de lire un livre. Combien de personnes qui avant lisaient des livres pour s'endormir le soir sont un dernier petit coup sur son téléphone. Donc on est face à une concurrence qui est très importante. Alors on peut soit baisser les bras et se dire voilà c'est fichu, plus personne ne lira, il y a les écrans. Ou alors monter le niveau d'exigence. Se dire, je vais faire des livres qui, j'espère, seront tellement passionnants, dont l'écriture sera pas facile, mais sera une littérature qui va arracher le lecteur à lui-même. C'est une formule de Stevenson que j'aime beaucoup. Hein. Toute lecture digne de ce nom doit vous arracher à vous-même. Alors là, je me mettrai à niveau des écrans et je pourrai recapturer ces lecteurs qui s'en vont. Voilà.
Oui, ça explique tout. Alors, moi, j'ai pas envie de spoiler le roman, mais c'est vrai que le titre, vous en parlez brièvement dans le livre, il fait référence à Rocky, mais il fait référence au Rocky perdant et pas au Rocky gagnant. Alors, quel est le lien avec le roman? Est-ce que cette famille, finalement, finalement, c'est des véritables perdants. Pardon de parler comme ça, mais voilà.
Non, mais c'est-à-dire que oui, peut-être, probablement. Enfin, en tout cas, moi,
je crois que vous aimez
les perdants.
Alors
qu'ils ont l'étoffe des héros, comme Rocky, finalement.
Non, mais de toute façon, on est tous des perdants. On va tous mourir.
D'accord.
Donc, personne ne va gagner. Hein. Qu'on soit hyper glorieux à un certain moment dans sa vie ou pas, on va mourir. Donc, personne ne gagnera. Et je pense qu'il faut intégrer cette idée, se dire, OK, voilà. Et j'aime bien Rocky, en tout cas, dans cette idée. Il y a une phrase, mais qui n'est pas dans le premier Rocky, qui doit être dans le Rocky 5 ou 6, où il dit, l'important, ce n'est pas le nombre de coups que tu vas mettre dans la figure des autres, mais c'est le nombre de coups que tu vas prendre. Et malgré tout, continuer à avancer, je pense que c'est tout ce qu'on a à faire. On se prend des coups dans la figure absolument chaque jour, sans arrêt, certains plus brutaux que d'autres. On n'a pas d'autre choix que d'essayer de continuer à avancer. C'est ce que font les personnages ici du roman. Ils pensent qu'ils sont des super champions au moment, et puis non, ils se prennent des coups dans la figure. Et puis ils pensent qu'ils vont réussir à s'en sauver, et puis non, ils se prennent un autre coup. Et puis ils continuent à avancer. Et finalement, c'est ça. Il y a ce côté, il y a un des Rocky qui s'appelait la Rédemption. Hein.
Oui,
et ben voilà. Et la grande musique de Rocky, c'était Redemption Song. Et ben voilà. Il y a ça à un moment. Je crois que notre vie, c'est une rédemption de chaque minute. On se prend des coups, et puis on recommence, et puis on croit qu'on y arrive. Mais en fait, non, on n'y est pas arrivé. Et puis voilà. Et puis à la fin, de toute façon, voilà, il y a un cercueil où on met au crématorium et on meurt.
C'est assez optimiste.
Mais voilà, mais
fait, c'est la vérité.
Une fois qu'on accepte ça, je pense qu'il y a, il y a moyen de construire une certaine forme de bonheur là-dedans. Hein. J'aime bien la chanson de Johnny Cash, I See a Darkness. Hein.
Ouais.
C'est l'idée de ce bonheur malgré l'obscurité qui nous environne. Voilà.
Ok.
Alors, votre écriture, on l'a déjà dit, elle est captivante, mais elle est aussi cinématographique. Hein. Moi, j'ai dû penser à plusieurs films. Et voilà, il y a une tension constante et on est happé comme au cinéma, comme le concurrent.
Non, le cinéma n'est pas le concurrent.
Non, les écrans, les
micro-choses qui absorbent nos neurones.
C'est ça.
Le cinéma, c'est un collaborateur.
Alors, le collaborateur. Et bon, j'ai plusieurs questions. Hein. Comment vous parvenez peut-être vous ne savez pas, mais comment vous parvenez à construire une atmosphère qui est tout le temps prenante? Je veux dire, il n'y a pas... je veux dire, dans Thomas Kunzik, il
n'y
a pas trois phrases où on s'ennuie, quoi. Il
n'y
a pas trois... Il n'y en a même pas une demi. Mais bon, y a-t-il, ça c'est une autre question, est-ce qu'il y a, et on l'espère, est-ce qu'il y a des discussions en cours pour une adaptation cinématographique?
Il y a des discussions.
Ah,
ouais. Chouette.
Ouais,
chouette.
Non, c'est vrai. Alors ça, c'est la première fois que ça arrive, c'est qu'avant, presque avant la sortie, peut-être que les droits sont déjà...
Ah, ça c'est génial.
Voilà. Maintenant, il ne faut pas voir une adaptation cinématographique comme l'aboutissement parfait d'un roman.
Non, bien sûr.
Ça serait une interprétation, ça serait une déclinaison, ça sera nécessairement autre chose.
Je trouve que sur celui-là, la question, elle se pose presque même pas, quoi. C'est tellement cinématographique.
Oui, c'est faisable. En plus, c'est pas trop cher parce qu'il y a quatre personnages sur une île. Donc voilà. Ça serait intéressant. Je me demande un petit peu comment on pourrait y arriver, mais je pense qu'on peut y arriver. Ça pourrait faire un objet. Maintenant, comment ça fonctionne au niveau de l'écriture, c'est juste vraiment du travail, quoi.
C'est
écrire une page, deux pages, trois pages, quelques milliers de signes un jour, les relire, et puis recommencer, être exigeant, être critique. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc, c'est parvenir à se mettre sans arrêt à la place du lecteur, se mettre sans arrêt à la place du lecteur, se dire est-ce qu'il comprend ce qui se passe, est-ce qu'il sait ce qui se passe, est-ce qu'il ressent l'atmosphère, est-ce qu'il vit avec les personnages, est-ce qu'il s'ennuie, est-ce qu'il ne s'ennuie pas, et essayer de polir, de vernir, d'améliorer sans arrêt le texte.
À maintenir cette atmosphère un peu haletante aussi. Ouais.
En tout cas, c'est beaucoup plus artisanal et instinctif qu'on ne le pense.
Ouais.
C'est totalement artisanal, totalement. Il y a un peu de théorie sur la construction du scénario, mais ça, c'est vraiment le plus simple. Mmh. Voilà, le plus compliqué, ça reste vraiment d'amener cette chair de l'écriture dans le livre.
Et comprendre ces
personnages. De faire en sorte que votre lecteur lit, il n'ait pas l'impression de lire. Sinon, c'est
ça. Tout à fait. Voilà. Alors, dernière question. Le livre est dédié à Marion Mazorek. Qui est Marion Mazorek? Est-ce que c'est quelqu'un dans le monde de l'édition?
C'est mon éditrice depuis plus de 20 ans maintenant. C'est la directrice des éditions du Diable Vauvert qui me fait confiance depuis 20 ans, qui me permet d'écrire en me payant, je pense, plus que ce que je ne mérite.
Et qui a surtout confiance en vous.
Qui est une amie,
ouais.
Qui est une mère, qui a confiance, voilà. Donc c'est un regard sur moi dont j'ai besoin. C'est beaucoup de bienveillance et de confiance.
Voilà. Merci beaucoup Thomas Gunzik, merci David.
Merci à vous et voilà.